Bon, qu'est-ce qu'une récente encyclique du pape sur l'intelligence artificielle? Une citation d'Abraham Lincoln vieille d'il y a quoi 165 ans et la crise mondiale du logement de cette année 2026 ont en commun?
Sur le papier, bah absolument rien. C'est vraiment le genre de concept qu'on ne verrait jamais réuni dans la même phrase en temps normal.
Ouais, c'est clair. Mais dans les sources qu'on analyse aujourd'hui pour notre décryptage, bah ces trois éléments, ils forment la clé de voûte d'un seul et même combat.
C'est ça. Et l'objectif de notre immersion d'aujourd'hui, c'est vraiment d'explorer les récents efforts civils et politiques à l'échelle mondiale pour défendre ce qu'on appelle un habitat respectueux des droits humains.
Et tout ça au beau milieu d'une polycrise, hein, on précise. Une époque où l'effondrement moral semble s'aligner dangereusement avec l'effondrement structurel. Alors on plonge aujourd'hui dans le numéro 35 de la publication Land Times.
Ah oui, ou Ahwal al-Ard en arabe, qui a été publié là en juillet 2026.
Tout à fait, publié par le réseau HLRN. C'est une branche de la coalition mondiale HICI, la Habitat International Coalition, et d'ailleurs le ton est donné dès les premières pages.
Ah bah ils nous prennent pas de gants, ça c'est sûr.
Non, il n'y a pas de statistiques immobilières ou de plan de jaunage pour commencer. C'est une quête pure et simple de conscience humaine. En tant qu'analyste, ça m'a beaucoup surprise.
Et à juste titre, c'est un point de départ, disons, assez inhabituel pour un document qui traite d'urbanisme et de droit foncier. Avant même de débattre de la couleur du béton, des lois d'expropriation ou des frontières, les auteurs cherchent vraiment à établir une fondation éthique inébranlable.
Ce qui est fascinant, c'est qu'ils posent une question philosophique. Face à des défis systémiques qui semblent insolubles, ils demandent comment réveiller la conscience humaine collective.
Exactement. Et pour faire ça, le texte s'appuie sur une expression arabe d'une profondeur assez saisissante. C'est Ya jama'at al-khayr.
Ya jama'at al-khayr, c'est bien ça.
Ouais, c'est ça. Ce qui peut se traduire par « aux gens de bien ». Et le rapport décrit ça comme un appel viscéral qui est souvent utilisé par les populations palestiniennes et qui s'adresse directement à l'humanité de la personne en face.
Un appel désespéré aux humains doutés d'une bonne conscience, en fait. Bon, décortiquons ça, parce que ce qui est brillant, c'est la façon dont la publication relie ce cri du terrain à des déclarations mondiales majeures. Je pense notamment à l'encyclique du pape Léon XIV qui est parue en mai de cette année, 2026.
Oui, où le souverain pontife appelle les personnes de bonne volonté à protéger la personne humaine, particulièrement face à l'intelligence artificielle d'ailleurs.
C'est ça. Et le rapport ne s'arrête pas là, puisqu'il remonte à Abraham Lincoln, il y a 165 ans, avec son fameux discours qui invoque les meilleurs anges de notre nature.
En fait, ce qui est fascinant ici, c'est de voir comment la société civile utilise ses repères moraux historiques. Le but, c'est de démontrer que l'exigence d'un espace de vie digne, bah, c'est pas une invention bureaucratique moderne.
Non, c'est une constante historique, quoi.
Voilà. Que l'on soit un paysan chassé de ses terres aujourd'hui, ou le chef de l'Église catholique face aux algorithmes, la recherche est la même, c'est préserver la dignité humaine.
D'accord, le fondement moral est puissant, je l'accorde, mais, et c'est là que j'ai besoin de vos lumières, comment cette philosophie se traduit dans la mécanique bien froide et bureaucratique de la politique internationale?
C'est toute la question de l'application politique, oui.
Parce que le document cite abondamment l'objectif de développement durable numéro 11, le fameux ODD 11 des Nations Unies, qui promet des villes inclusives, sûres et durables d'ici 2030. Mais honnêtement, quand on voit l'état du monde, cet ODD 11, ça ressemble un peu à une mission d'entreprise encadrée dans le hall d'un bâtiment en train de brûler, non?
C'est une excellente analogie. Et l'ironie est palpable, on est d'accord. Mais il faut comprendre comment marchent ces institutions pour voir la valeur de cet ODD.
C'est-à-dire?
Eh bien, l'ODD 11 n'est pas brandi par la société civile comme une baguette magique. C'est une arme juridique en réalité. Le réseau HLRN l'a rappelé avec force au Forum arabe pour le développement durable au printemps dernier. L'astuce est là. Les États ont signé ces objectifs volontairement.
Ah, donc c'est un moyen de pression?
Exactement. Du coup, des événements comme le Forum politique de haut niveau, le FPHN de cette année, qui va examiner 8 États de la région Asie du Sud-Ouest et Afrique du Nord, eh ben ça devient une sorte de tribunal d'opinion publique.
Donc si je résume, ces ONG utilisent les propres mots des gouvernements pour les coincer?
C'est le principe même de la redevabilité. Sans l'ODD 11, on n'a pas de normes mondiales. Les États pourraient juste dire « on fait de notre mieux, laissez-nous tranquilles ».
Ouais, alors qu'avec ce thermomètre, on mesure le gouffre entre les discours de l'ONU et la réalité sur le terrain.
Voilà, les ONG arrivent avec des rapports précis lors de ce FPHN pour montrer que l'agenda 2030 est bafoué. C'est un des rares leviers de pression qu'il leur reste.
Ce qui nous amène inévitablement à observer ce qui se passe quand ces engagements échouent. Parce qu'il est impossible de parler de ville duvable sans aborder ce qui les détruit activement. Et là, le numéro de Land Times fait un basculement brutal.
Très brutal, oui. On quitte la diplomatie pour entrer de plein pied dans les leçons de la guerre urbaine.
Et la transition est douloureuse. Mais c'est là qu'il est crucial de préciser que notre rôle ici, c'est d'analyser comment ces sources documentent la crise. On ne prend pas parti. On observe la construction de leur argumentaire.
Tout à fait, c'est important de le garder en tête. Cela soulève d'ailleurs une question systémique importante. Comment planifier la durabilité quand le territoire est déchiqueté par des bombes ?
Ben oui, et la revue dresse un panorama glaçant de la région depuis 1948. Ils ancrent leur analyse dans la colonisation de la Palestine par l'Europe durant l'entre-deux-guerres.
Oui, le document présente ça comme le point de bascule qui a donné à la guerre des dimensions qualifiées d'atroces. Et les mots choisis sont très forts.
Oui, ils parlent de l'utilisation de la famine comme arme de guerre. Et ils utilisent un terme anglais très spécifique. Ils parlent d'un « hellscape », un paysage infernal.
Et ce terme de « hellscape », il n'est vraiment pas utilisé à la légère dans l'analyse spatiale. Ça ne veut pas juste dire qu'il y a des bâtiments effondrés, c'est bien plus profond.
C'est-à-dire au niveau des infrastructures.
Oui, ça décrit l'annihilation totale des systèmes vitaux. Les réseaux d'eau potable, les terres agricoles empoisonnées, les hôpitaux en ruine. En gros, c'est la destruction des conditions préalables à l'existence humaine même.
C'est terrifiant. Et d'ailleurs, les sources ne se limitent pas à une seule géographie. Elles documentent aussi une hausse très marquée des violations des droits au logement et à la terre dans le territoire du Cachemire sous occupation indienne.
Oui, en se concentrant particulièrement sur les 7 derniers mois, selon leurs données.
Voilà. Et en lisant ces rapports de Land Times, de façon purement factuelle, on réalise le contraste ahurissant. D'un côté, les promesses de la ville sûre, et de l'autre, des quartiers rasés et des terres confisquées.
Le grand écart total, quoi.
Exactement. Et face à cette incapacité flagrante des États, c'est la société civile qui prend le relais. Et c'est là qu'on aborde la question de la résilience au milieu du chaos.
C'est peut-être la partie la plus porteuse d'espoir du document, en effet.
L'agenda commun d'action politique du 3e Forum mondial de Nileni est cité comme l'exemple de ce changement. La société civile tente d'apporter une vraie transformation systémique par la base.
Parce que les mouvements sociaux réalisent que la diplomatie étatique est soit paralysée, soit complice, selon les mots du rapport. Les communautés ne peuvent tout simplement plus attendre un traité de paix pour survivre.
Et l'exemple qui m'a le plus marqué, honnêtement, j'en suis restée bouche bée, c'est l'organisation Go Green Sudan.
Ah oui, c'est un cas d'étude fascinant.
Quand on y pense, le Soudan traverse aujourd'hui la crise de guerre et de déplacement la plus grave au monde. Donc la priorité, c'est d'échapper aux balles et de manger. Et pourtant, cette initiative civile se bat pour l'environnement.
Ça peut paraître complètement paradoxal de prime abord.
Mais c'est clair, mon premier réflexe, c'était de me dire que c'est comme vouloir planter un magnifique jardin botanique en plein milieu d'un ouragan. Comment on peut penser à l'écologie quand on survit littéralement à une guerre ?
Bah, c'est une réaction normale quand on regarde de l'extérieur. On a cette pyramide des besoins en tête, d'abord on survit, et l'écologie c'est pour plus tard, quand on sera en paix.
Bah oui, ça paraît logique.
Sauf que la réalité d'un territoire en guerre détruit cette hiérarchie. L'environnement là-bas, c'est pas recycler le plastique, c'est la viabilité même du sol pour ne pas mourir demain. Et c'est là qu'intervient ce qu'on appelle dans le milieu humanitaire le « triple nexus ».
Ah, le fameux triple nexus. Franchement, ça sonne comme un vieux titre de film de science-fiction dystopique.
C'est vrai, le jargon institutionnel a tendance à masquer des réalités très crues. Mais le triple nexus, c'est l'intersection indispensable entre l'humanitaire, le développement et la paix.
Et comment ça s'applique à Go Green Sudan, concrètement ?
Eh bien, imaginons qu'un accord de paix soit signé demain. Les déplacés rentrent chez eux. Si, pendant la guerre, les nappes phréatiques ont été empoisonnées et les forêts rasées pour se chauffer, la terre est morte.
D'accord, je vois. Donc la paix ne servirait à rien parce qu'ils n'auraient rien pour survivre.
Exactement. Les gens mourraient de faim ou devraient fuir à nouveau. Donc protéger l'environnement sous les bombes, c'est littéralement préparer le seul terrain possible pour que la paix soit durable.
C'est d'une logique implacable en fait. Et le réseau HIC a bien compris l'importance de ces actions locales. Le rapport mentionne la signature d'un mémorandum d'entente entre HIC et ONU Habitat.
Tout à fait, pour unir leurs forces dans le cadre du plan stratégique 2026-2029.
Et du nouvel agenda urbain, qui fête ses 10 ans cette année d'ailleurs. Donc on a des activistes au Soudan dont le travail fait écho jusqu'aux plus hautes sphères de l'ONU.
C'est la beauté de cette transformation systémique.
Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce qu'on pourrait se dire, super, la transition écologique globale est entre de bonnes mains. Mais les sources mettent en lumière un immense paradoxe.
Ah, le fameux WUF13.
Voilà. Le 13e Forum urbain mondial, le WUF13, organisé cette année à Bakou, en Azerbaïdjan. D'ailleurs, HIC et ONU Habitat y célébraient toutes deux leur 50e anniversaire depuis la conférence de Vancouver en 1976.
Oui.
Et le thème officiel du forum était très beau, loger le monde des villes et des communautés sûres et résilientes.
Très beau, très lisse. Sauf que c'est là que HLRN a exposé le phénomène des expulsions vertes ou green evictions.
Si l'on relie ça à la situation globale, c'est là qu'on voit les limites des politiques descendantes.
Et c'est terrifiant. Le rapport explique que des projets massifs de conservation de la nature ou de lutte contre le climat impliquent l'expulsion forcée des personnes les plus vulnérables. On parle de populations rurales, de peuples autochtones, chassés de chez eux pour la cause écologique. Oui, des gens qui ont juste le malheur d'habiter sur des terres ciblées par les plans d'adaptation climatique mondiaux.
Mais enfin, je suis outré en lisant ça. Est-ce qu'on est en train de dire qu'on sacrifie délibérément les populations les plus pauvres juste pour cocher les cases d'un tableur climatique ? C'est de l'éco-gentrification à l'état pur.
Je comprends cette indignation, c'est le revers très sombre de la médaille climatique. Et pour comprendre comment on en arrive là, il faut regarder la terminologie technique utilisée.
Les fameux indicateurs d'adaptation.
Oui. Les planificateurs utilisent des indicateurs pour atteindre l'objectif mondial d'adaptation. Ils cartographient la vulnérabilité des territoires, et de cette logique très mathématique naît un concept clé, le retrait géré.
Retrait géré. Managed retreat en anglais. Encore un terme clinique pour cacher une réalité brutale. C'est quoi exactement ?
En théorie, c'est plutôt plein de bon sens. C'est le fait de planifier le déplacement de populations hors de zones devenues trop dangereuses à cause du climat.
Genre ? Un village qui va finir sous l'eau avec la montée des océans ?
Voilà. Sur le papier, c'est pour sauver des vies. Mais le problème, documenté par nos sources, c'est l'exécution. Ces décisions de retrait géré sont prises d'en haut, souvent sans aucune consultation locale.
Donc un paysan perd sa terre ancestrale parce qu'un satellite a décidé que sa vallée devait devenir un puits de carbone ?
C'est ça. Sous couvert de bonnes intentions climatiques globales, sans cette bonne conscience locale, on crée de nouvelles victimes et des réfugiés écologiques.
C'est tragique. Et qu'il s'agisse de fuir la guerre ou d'être chassé par une expulsion verte, ces déplacements saturent les villes. Ce qui nous amène à l'ultime section de notre analyse de la terre à la table.
Parce qu'une ville saturée de déplacés, elle finit par se heurter au besoin le plus primitif de tous, se nourrir. L'insécurité alimentaire urbaine, c'est un peu l'onde de choc finale de ces crises.
Et le document montre que l'action civique dépasse désormais le simple logement. HIC s'engage fortement pour ces populations urbaines en situation d'insécurité alimentaire. Il s'implique dans le CSIPM.
Le mécanisme de la société civile et des peuples autochtones, oui. En lien avec le comité de la sécurité alimentaire mondiale.
C'est toute une machinerie, hein. Mais le rapport souligne que ce renouvellement de HIC tombe à pic, juste au moment où on prépare la réforme de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO.
Et le timing n'est pas anodin, parce que tout ce processus fait suite, selon le texte, à l'échec du sommet de l'avenir l'année dernière.
Alors qu'est-ce que tout ça signifie ? Un grand sommet mondial échoue et la société civile, au lieu d'abandonner, s'attaque à la réforme de la FAO.
Exactement. Après l'échec des grandes messes politiques de l'année passée, la société civile ne lâche rien. Ils investissent la FAO parce que c'est là que se décident les normes agricoles mondiales.
Donc, c'est une nouvelle opportunité de réaliser cette fameuse transformation systémique par la base.
C'est leur stratégie, oui. Infiltrer ces instances pour imposer des garde-fous, protéger les systèmes alimentaires et éviter l'accaparement des terres. C'est de la résilience pure.
Si on fait le bilan de cette plongée dans Land Times, le grand écart est juste hallucinant. On a d'un côté le courage inouï d'ONG comme Go Green Soudan qui plante des arbres sous les tirs croisés.
Ouais. Une leçon d'humilité.
Et de l'autre, des rouages bureaucratiques gigantesques de l'ONU. Et au milieu, le danger absurde d'être expulsé de sa propre maison au nom de l'écologie. C'est vertigineux.
Mais tout ça répond au même objectif. C'est cet appel du début, à toutes les personnes de bonne volonté, à cette conscience humaine, pour rectifier le cap avant qu'il ne soit trop tard.
Et ça me laisse sur une dernière réflexion, un peu provocatrice, mais qui relie tout ça. On parlait au tout début de l'encyclique du pape sur l'intelligence artificielle.
Ah oui, en effet.
On voit bien aujourd'hui que les décideurs humains peinent déjà énormément à équilibrer les objectifs climatiques sans créer d'expulsion verte. Ils font des erreurs tragiques.
C'est le moins qu'on puisse dire, oui.
Mais alors, Que se passera-t-il demain si on confie à des intelligences artificielles le soin d'optimiser nos villes et d'orchestrer ces fameux retraits gérés ? L'IA sera-t-elle l'outil parfait pour un habitat respectueux ou deviendra-t-elle le bulldozer ultime, ultra efficace, mais totalement dépourvu de cette fameuse bonne conscience ?
Ça, c'est une question qui fait froid dans le dos.
Eh bien, on va laisser tout le monde méditer là-dessus.